Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Nous ne sommes pas nombreux ce soir, mais nous avons une certitude par contre. La parole de Dieu dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, le peu que nous sommes ce soir, nous sommes déjà en nombre suffisant pour avoir cette certitude que Dieu est au milieu de nous. Amen. Nous allons tout simplement prier. Et par la suite, je vais lire pour vous le texte qui va nous servir de base pour notre méditation ce soir. Père Céleste, nous te bénissons encore une fois ce soir. Nous te disons merci pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour ta parole qui est encore disponible et accessible. Tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole et d'en sortir édifié, d'en sortir restauré, rassasié, parce que c'est la nourriture dont notre âme a besoin. Et toi qui es le pourvoyeur par excellence, tu connais les choses à l'avance avant même qu'elles arrivent. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente et chaque personne, Seigneur, qui nous écoute à distance. Mais Seigneur, fais un dépôt ce soir dans la vie de chacun de nous, au moins de ta parole. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument entre tes mains pour amener fidèlement, non pas selon mes propres capacités, mais selon ton plan, selon la provision que tu as toujours voulu pour ton peuple ce soir. Je me remets entre tes mains. Fais-nous du bien ce soir, comme tu as toujours l'habitude de le faire. En ton nom, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Je vais tout simplement vous inviter à ouvrir vos Bibles. Attendez un instant, je pense que je suis un petit peu plus grand que ça. Bon, c'est déjà mieux. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Et je vais lire pour vous à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Donc, Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit vers un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et lui baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Pardon. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort, est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ce récit qu'on vient de lire dans l'évangile de Luc, c'est une parabole donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai bien dit, c'est une parabole par le passé, ni en Israël, ni à aucun endroit sur la planète, mais il y avait un père qui avait deux enfants et puis le plus jeune lui avait demandé de partager ses biens. C'est vraiment une parabole donnée par Jésus. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est le fait tout simplement d'utiliser les éléments terrestres pour expliquer une réalité spirituelle. Donc, Jésus a pris des exemples, étant donné qu'on vit sur cette terre, il y a des enfants, il y a des pères, il y a un héritage qu'un père peut laisser à ses enfants. Mais Jésus a utilisé cette parabole-là pour expliquer une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, c'est tout simplement l'amour du Père. Quoique le titre de ce message, c'est le titre de la parabole, c'est l'enfant prodigue ou encore le fils prodigue. Dans certains récits, on l'appelle encore tout simplement la parabole du Père miséricordieux. Tout simplement, de par l'attitude du Père face au comportement de son fils. Cette parabole fait également partie d'une suite de paraboles. Si vous voulez, trois paraboles données par Jésus-Christ de manière successive. On parle d'une trilogie et celle-là, c'est tout simplement la dernière. Si nous lisons le chapitre dans son ensemble, nous pouvons voir que la première parabole, c'est tout simplement la parabole de la brebis égarée. Et par la suite, on a parlé également de la drachme retrouvée. Et pour terminer, Jésus a mentionné cette parabole-là. Alors, on peut bien se poser la question, pourquoi Jésus a donné cette parabole? Qui nous dit tout simplement que le fils, le plus jeune, le père qui en avait deux, le plus jeune, à un moment donné, s'est présenté devant son père pour lui demander la part de son héritage. Le père a consenti à sa demande et peu de temps après, il a pris sa part, il a quitté le pays, il s'est allé loin, il l'a dépensé dans la débauche et malheureusement, la famine étant survenue dans ce pays-là, il était vraiment mal pris et s'est allé mettre au service d'un des habitants de ce pays qui malheureusement ne l'a pas bien traité parce qu'on voit que même les pourceaux étaient mieux traités que lui. Donc, dans la famine, il ne pouvait même pas se rassasier à la manière d'un porc. Ce qui nous surprend aussi, c'est de voir l'accueil que le père lui réserve à son retour. Et cet accueil-là a provoqué malheureusement le mécontentement du fils aîné qui jugeait mais que ce n'était pas le bon comportement à adopter. Alors si on regarde le contexte, pourquoi Jésus a donné cette parabole ou cette suite de paraboles? Mais la raison se trouve tout simplement dans les deux premiers versets du chapitre et je vais lire pour vous. Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Tous les publicains
Et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors ici, on voit Jésus en compagnie des personnes que les pharisiens jugeaient que ce n'était pas la bonne compagnie pour Jésus. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est la différence entre quelqu'un qui a un cœur aimant, qui est venu pour sauver, versus une personne qui veut juger. Alors ici, on voit l'exemple typique de la religion. Les pharisiens voient le comportement, condamnent et jugent. Les pharisiens et les scribes pensent savoir le comportement à adopter pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alors que Jésus, lui, ne pense pas savoir quel comportement qu'il faut avoir. Jésus est la réponse. Jésus est justement venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, en faisant référence, merci mon frère, en faisant référence, bien entendu, à la repentance et au salut de Zachée. » Donc, voyant le comportement de Jésus, voyant Jésus en compagnie de ces personnes-là qui étaient perdues, les pharisiens et les scribes, qui avaient partiellement la connaissance de la parole de Dieu, jugeaient tout simplement, mais qu'il fallait s'en éloigner. Il ne fallait pas être proche de ces personnes-là. Mais Jésus, la raison de sa venue, c'est exactement pour ça. Donc ceux qui n'étaient pas sauvés, ceux qui n'avaient pas encore une vie agréable à Dieu, mais ce sont ces personnes-là qu'il était venu chercher. Et c'est pour cela que la première parabole, il disait, quelqu'un, un berger qui avait 100 brebis, mais s'il y en a une qui est égarée, mais il va laisser les 99 autres de côté pour aller partir à la recherche de la centième. Et lorsqu'il l'aura retrouvée, mais il va célébrer, il va festoyer pour dire « Ma brebis qui était égarée, mais je l'ai trouvée. » La deuxième parabole, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on dit cette femme qui avait les pièces, les dracmes, ce sont des pièces d'argent, mais elle dit « S'il y en a une qui est perdue dans une maison, mais cette personne-là va balayer, va éclairer un peu partout pour trouver cette pièce-là. » Et lorsqu'elle l'aura retrouvée, mais ce sera la même chose. Et avec la parabole de l'enfant prodigue, c'est la même chose. Que l'exemple soit un animal, une brebis qui est égarée, ou un objet, une drabe qui est perdue, ou encore un enfant de Dieu. Mais la raison, c'est la même. L'explication est la même. Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Amen. Et Jésus a mentionné encore dans Luc chapitre 5, les versets 31 et 32, il dit que les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Il dit qu'il est venu pas pour les justes, mais il est venu pour ceux qui se croient pécheurs et ceux qui veulent changer leur vie. Amen. Et c'est là la difficulté des pharisiens. C'est cette portion-là que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. Mais avant d'aller un peu plus loin, regardons dans les détails le récit de cette parabole. Regardons les personnages un à un afin de comprendre un peu mieux. La première personne qu'on va en parler, c'est le fils prodigue, le plus jeune, qui demande une partie de son héritage. Par ce comportement, la Bible ne nous dit pas le processus décisionnel. Pourquoi il a pris cette décision? Mais on peut comprendre que ce n'est pas une décision qu'il a prise sous un coup de tête. Quelque part, on peut imaginer que le fils cadet a fait le calcul de ce qu'il reçoit dans la maison de son père versus qu'est-ce qu'il ferait avec son héritage. Quelque part, il a regardé et il a dit, qu'est-ce que le père me confie comme tâche à faire dans sa maison? Et qu'est-ce que moi, je déciderais de faire de mon plein gré si j'arrive à prendre mon indépendance, si j'arrive à prendre mes distances, à me proclamer maître de moi-même, plutôt que de suivre les règles de la maison? Quelque part, il a regardé, il a dit, ben, avec une partie de mon héritage, comment je vais plaire à mon âme, et la Bible dit ici, dans la débauche, versus rester à la maison de mon père. Et malheureusement, il a choisi de s'en aller. Le fils cadet a tout simplement oublié que la vraie joie se trouve dans la maison de Dieu. La vraie joie se trouve auprès de Dieu. Et il l'a appris malheureusement à ses dépens, puisque le récit nous dit sa situation ne s'est pas améliorée. Et par définition, dans le langage de tous les jours, on appelle tout simplement un enfant prodigue quelqu'un qui, après avoir laissé une maison, qui abandonne la situation première, mais qui revient dans une situation lamentable. Et c'est ce qu'on a vu avec le fils prodigue. Ce que le fils prodigue n'avait pas compris, c'est que non seulement la vraie joie se trouve auprès de Dieu, mais ce que le monde pourrait appeler joie n'est qu'éphémère. Ce que le monde peut donner, qui peut rassasier, ne peut le faire que pendant un certain temps. Ce n'est qu'une illusion. Avec le temps, ça va tout simplement s'estomper. Mais il faut regarder aussi pour dire que la décision qu'a pris le fils prodigue le rend indigne de son père. Et l'image que le fils prodigue donne, c'est l'image que les pharisiens détestent le plus. L'image d'un enfant qui a failli à ses manquements, qui a failli à ses devoirs, qui a plutôt préférer laisser la maison de son père pour aller se mettre au service dans une maison étrangère. Et qui, de surcroît, s'est trouvé gardien de cochon. Pour les Juifs, un porc, c'était un animal impur. Donc, c'est un enfant qui était en contact étroit avec la souillure. Donc, non seulement il a déshonoré ses parents, non seulement il a choisi délibérément de laisser sa propre maison pour aller vers les étrangers, mais pour être en contact avec la souillure. Ici, le message, c'est un message d'exhortation. Ce n'est que dans la maison du Père qu'on peut être bien. Ce n'est que dans la maison du Père qu'on peut ressentir la vraie joie. Peu importe la situation, notre place, c'est auprès de notre Père. Si on prend la décision d'abandonner Dieu, mais on prend une décision contre soi-même, ce n'est pas le jugement de Dieu qui va nous affliger. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui va rendre notre situation déplorable. mais nous choisissons de mener notre vie loin de Dieu et malheureusement, nous allons payer les conséquences. C'est ce qui est arrivé avec le fils prodigue. Mais au-delà de ce comportement, ce qu'on voit aussi, c'est non seulement ce comportement-là le rend indigne de son père, mais dans ce comportement, on voit aussi le manque de respect et l'arrogance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que le fils a demandé, c'est son héritage. Et par définition, un héritage, tu l'as au décès de la personne qui te l'a légué. Donc, aux yeux du fils, il a préféré que son père soit mort. Ou encore, il a enterré son père vivant pour prendre son héritage. Non seulement il est indigne, mais c'est insulter son père. Demander son héritage de son vivant. Et malheureusement, ce comportement aurait pu provoquer la mort du fils. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait bien entendu des règles. Des règles qui, non seulement expliquaient comment ça doit se passer, l'héritage, mais en même temps, des règles qui disaient aussi, lorsqu'on a un enfant qui ne se comporte pas de la bonne façon, mais comment il faut traiter cet enfant-là? Si nous regardons dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, les versets 15 et 17, on voit ici les questions de comment traiter le fils premier-né. Ici, le texte nous dit, si un homme a deux femmes et qu'il préfère une des deux femmes, mais même sa préférence ne lui donne pas le droit de faire passer un fils cadet pour un fils aîné. Je m'explique. L'homme qui a deux femmes, l'amour qu'il a pour cette femme-là, pourrait le pousser à dire, ben, l'enfant de cette femme-là, c'est l'enfant aîné. Mais la Bible est claire là-dessus. Il a dit, tu as deux femmes, tu préfères une, c'est correct. Mais ce n'est pas une raison, la femme que tu n'aimes pas. S'il t'a donné ton premier-né, et de dire que ce n'est pas le premier-né. Pourquoi? Parce que il y a un héritage qui vient pour le premier-né. Et ça, nous le voyons un peu plus loin, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, chapitre 27, les versets 8 et 11. Et l'héritage du premier-né, c'est le double. Et dans le texte que nous avons vu ici, le fils cadet n'a pas reçu la moitié de ce que l'aîné devrait avoir. On nous a dit tout simplement, il les a partagés. Sans expliquer que l'aîné devrait avoir une portion double. Mais la Bible nous dit aussi, toujours dans le chapitre 21 de Deutéronome, si l'enfant a un mauvais comportement, les parents avaient l'opportunité de l'amener en dehors de la ville et de le faire lapider. Deutéronome, chapitre 21, les versets 18 à 21. Donc, la façon de se comporter, et dans cette parabole-là, si le père avait agi de cette manière-là, ça aurait été correct pour le temps qu'on a donné cette parabole-là. Parce que l'enfant cadet, le fils cadet, a déshonoré ses parents, a voulu prendre son héritage alors que son père était encore vivant. Donc, ce n'était pas un exemple à donner. Donc, le geste était passible de mort. Mais la miséricorde du père, l'amour que le père avait pour ses enfants, il ne l'a pas fait. Il n'a pas jugé. Il a tout simplement acquiescé à la demande du Fils, tout en sachant que la repentance pourrait venir. Et gloire soit rendue à Dieu, la repentance, elle est revenue. Quelqu'un dira peut-être, moi, je n'agirai jamais ainsi de la façon que le fils cadet a fait. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que quelque part, on n'a pas déjà agi, on ne l'a pas déjà fait? La question qu'il faut se poser ici, c'est comment on utilise nos ressources, les bénédictions, les biens et les talents que Dieu nous donne. Est-ce que ces ressources-là, le talent, les biens et les bénédictions que Dieu nous donne, est-ce qu'on les utilise dans sa maison? Parce que regardez, l'enfant prodigue, il a fait la demande. Par la suite, il a quitté la maison. Et tout ce que le père lui avait donné ont été dilapidés en dehors de la maison du père. Alors la question, si on est différent de l'enfant prodigue, ce que Dieu nous donne comme talent, comme avoir, comme bénédiction, comme ressource, si on les a présentement, on les utilise où? Avant de dire, on ne le ressemble pas. Si on utilise ces talents-là et ces ressources-là, ces bénédictions-là, dans la maison de Dieu, alors effectivement, on est différent de lui. Mais si on ne les met pas au service de Dieu, on les met au service à l'extérieur, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut spécifiquement utiliser nos dons et nos talents dans l'Église pour que ça soit considéré comme des talents utilisés dans la maison. Parce que là où vous êtes, Dieu vous appelle à travailler pour lui. Vous comprenez? Là où vous êtes, Dieu vous appelle à travailler pour lui. Que ce soit au travail, que ce soit chez vous, ou que ce soit à l'église. Alors, est-ce qu'on utilise ces dons, ces talents et ces ressources-là pour Dieu? Et l'autre question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce qu'on a laissé le règne à Dieu de nos vies? Et je sais, la réponse peut venir assez vite. Non, on a toujours laissé Dieu diriger nos vies. Pourquoi? Parce que on pense n'a jamais affirmé clairement qu'on est le Seigneur de nos propres vies. Mais la question à se poser, c'est lorsque Dieu nous demande une chose, est-ce que nous le faisons? Lorsque Dieu dit d'aller à droite et on décide que mieux vaut aller à gauche parce qu'on trouve plus notre bonheur à gauche. Est-ce qu'on n'est pas enfant prodigue lorsqu'on fait ça? Parce que c'est exactement ce qu'il a fait, le fils cadet. À un moment donné, il a fait le calcul. Il a dit, si je reste à la maison, eh bien, je vais être au service de mon père et je vais devoir vivre selon les règles de la maison. Mais si je décide de m'en aller, mais les règles, je vais me les imposer moi-même. Alors, si nous menons nos vies avec nos propres règles, on ne peut pas dire qu'on est aussi différent. Les choses qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne retient personne. Dieu peut avoir la douleur sachant que son enfant n'a pas pris la bonne décision, sachant que c'est une décision qui va faire souffrir son enfant. Mais Dieu, malheureusement, ne peut pas retenir. L'autre point qu'il faut considérer aussi, c'est on peut vivre sans Dieu pendant un certain temps sans avoir de difficultés. Mais ça ne veut pas dire que la vie sans Dieu ne va pas occasionner son lot de difficultés. Et c'est ce qu'on voit avec l'enfant prodigue également. Car après avoir dépensé tout ce qu'il avait, lorsque la famine est arrivée, il s'est trouvé dans le besoin. Et quelle image forte que nous avons aussi de voir à son retour comment le Père l'a traité avec amour et non avec un jugement tel qu'il aurait dû, il l'aurait mérité. Parlons maintenant un peu du frère aîné. Le frère aîné, dans cette parabole, on voit qu'il n'a pas pris ses responsabilités, ou plutôt qu'il a failli à ses devoirs. Pourquoi? Parce que nulle part ici dans la parabole, on voit qu'il a tenté d'empêcher son jeune frère de quitter la maison. C'est à se demander, est-ce qu'il n'a pas donné de mauvais exemples à son jeune frère? Pourquoi son jeune frère, en le voyant au service de son père, a quand même pris la décision de quitter la maison? Et je vous explique pourquoi j'ai pensé à cela. Combien de fois on voit des personnes choisir ou embrasser des professions, mais tout simplement parce que ces personnes-là avaient de bons exemples. On a des personnes qui sont devenues des professeurs, tout simplement parce qu'on a connu un professeur qui a marqué la vie de cette personne-là. Donc ce père qui avait deux enfants, pour que le plus jeune décide de s'en aller, c'est à se poser la question, quel genre de service il voyait que l'aîné rendait à son père? Et ici, je ne suis pas en train de dire que l'aîné n'a pas rendu de service, mais la question c'était, quelle était l'attitude de l'aîné? Quelqu'un qui répond aux besoins de son père, qui accomplit fidèlement ou loyalement toutes les tâches que le père lui a données, mais en le faisant, le cœur n'était pas à la bonne place, c'est un travail en vain. Et si le plus jeune le voit travailler avec un mécontentement, je dois le faire, je vais le faire, mais je ne prouve aucune joie, il n'y a aucune allégresse en le faisant, bien on peut dire, certainement, ça ne donne pas le goût au cadet de rester dans cette maison-là. Parce que sinon, je vois l'aîné, la façon qu'il donne son service, la façon qu'il travaille, moi, ce n'est pas vrai que je vais continuer ma vie comme ça. Donc, c'est à se poser la question, non seulement il n'a pas empêché son cadet de quitter, mais on pourrait supposer aussi, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il avait un leadership? Est-ce qu'il donnait l'exemple adéquat à son cadet pour faire en sorte que il a le goût de travailler dans cette maison? Et l'autre comportement qu'on voyait également du fils aîné, c'est le fait de juger son jeune frère. Parce qu'à son retour, il était piqué au vif, il était en colère et il ne voulait même pas rentrer. Pourquoi? Parce que il a tout simplement décidé que sa place n'était plus dans la maison. Il a voulu avoir une partie de l'héritage, il a voulu avoir son bien, il l'a reçu, peu importe ce qu'il a fait avec, on ne veut plus rien savoir de lui. Surtout si on entend, sa condition est pire, mais ça veut dire qu'il a déjà pris sa part, mais la part qui restait dans la maison, c'est la part qui revenait à l'aîné. Mais ça veut dire qu'il va venir encore gruger dans ma part. Vous comprenez? Et ici, on voit l'attitude, le comportement du fils, c'était plus enclin au jugement. Il l'a fait savoir au père. Moi, j'étais à ton service. Tout ce que tu me demandais, je le faisais. Mais lui, il n'a rien fait. Il a dépensé une partie de l'héritage familial. Et puis là, maintenant, c'est pour lui que tu fais la fête. Ce comportement-là nous rappelle également une autre parabole que Jésus a donnée cette fois-ci. C'est dans Luc chapitre 18, la parabole du pharisien et du publicain. Les versets qui parlent de cette parabole-là vont comme suit. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. » Ou encore comme ce publicain, « Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que j'y gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et ici, si nous regardons, c'est l'image typique du pharisien. Il porte le jugement. Il s'élève. Son cœur est enflé d'orgueil par rapport à son comportement. Et dans ce passage-là, tout comme le fils cadet, il y a un fond de vérité. Ce pharisien-là, dans sa prière, n'était pas en train de mentir à Dieu. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Parce qu'il n'aurait jamais pu se présenter devant Dieu pour mentir délibérément dans sa prière. Alors, oui, cette personne-là donnait la dîme. Oui, cette personne-là n'était pas adultère. Oui, cette personne-là n'était pas un voleur. Mais, quel manque d'amour! Quel manque d'amour envers son prochain! Et la raison de ces paraboles-là, c'est tout simplement ça. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'amour. Ce Dieu-là nous invite à manifester l'amour les uns envers les autres. On n'est pas là pour juger. Notre frère peut fauter, tout comme nous, on peut fauter. Mais notre responsabilité, lorsque notre frère revient à la repentance, c'est de l'accueillir. Ou encore, si on voit que notre frère risque de glisser, mais c'est d'aller l'exhorter. C'est l'amour fraternel. Et c'est cette leçon-là que Jésus a voulu donner aux pharisiens pour leur faire comprendre que, oui, par vos comportements, parce que vous voulez faire, vous connaissez la loi, vous voulez l'appliquer, c'est bien. Mais cela ne vous donne pas le droit de juger vos frères. La personne qui est maître et seigneur reste Dieu. Et lui, il est Dieu miséricordieux. Il manifeste son amour. Il est venu chercher ces personnes-là que vous voulez tasser dans un coin. C'est le même Dieu qui les a créés. Alors le fils est... L'aîné, pour le temps passé à la maison du père, aurait dû avoir les caractères du père en lui, plutôt que de rester dehors et d'être en colère. Mais si je suis l'enfant de mon père, comment on peut m'identifier à lui? Par la ressemblance? Par les façons d'agir, par les comportements, par l'éducation que j'ai reçue de mon père. Pour le temps passé à la maison, bien, le fils aîné n'avait pas mûri, ne s'est pas laissé imprégner par les caractères du père. Et ici, on voit le Père dans sa miséricorde. La parabole nous dit ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement accordé le pardon, mais il a donné toute la restauration. Et ici, dans cette parabole, il y a beaucoup de symboles. On voit la façon que le Père s'est précipité et il a demandé d'aller chercher la plus belle robe. C'est l'image pour nous. Mon enfant qui était égaré, qui était dans l'arrière-scène, mais cette fois-ci, j'ai pris la décision de le pardonner et j'ai pris la décision de le restaurer. J'ai pris la décision de le mettre à l'honneur. Il n'est plus maintenant dans l'arrière-scène, mais il est dans l'avant-scène maintenant, avec une robe d'honneur. Le Père a ensuite lui a mis un anneau au doigt, qui est le symbole de l'autorité qu'il a dans la maison familiale, ce qu'il avait perdu. En quittant la maison de son père, pour se rendre esclave dans un pays étranger, il n'avait plus droit. Mais à son retour, le Père lui a redonné ses droits au moyen de l'anneau. Et le parabole nous dit aussi, le Père a demandé à ce qu'on lui mette des chaussures à ses pieds. En ce temps-là, les seules personnes qui ne portaient pas de chaussures, c'était des esclaves. Mais par ce comportement, le Père est en train de dire, « J'ai retrouvé mon fils. Ce n'est plus un esclave. C'est un enfant dans ma maison que j'ai restauré. » Amen. Et c'est pour nous, ici, un message qui est assez fort. Au moyen de cette parabole, nous avons des exemples à ne pas suivre, tout comme des exemples à suivre. Dans cette parabole, le Père représente Dieu, qui est miséricordieux, qui nous aime. On voit le fils, l'aîné, il représente les pharisiens. Il représente la religion. Il représente ceux qui sont enclins de juger, qui voient le tort, la faute commise, et puis qui pensent, mais la peine, ça doit être ça. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque ce n'est pas la personne qui a fauté, combien que la personne aime voir le jugement? Mais lorsque la personne qui commet le tort, c'est nous autres-mêmes, combien on aime avoir la clémence? Mais le message, c'est que Dieu nous dit qu'il est miséricordieux, qu'on doit avoir ses caractères, qu'il est un Père aimant, qu'on doit manifester l'amour qu'il nous a gratuitement donné. Exercer cet amour-là les uns pour les autres. Je sais que c'est plus difficile de pardonner, de manifester de l'amour, mais ça fait preuve aussi de maturité. Parce que juger, dire la personne a fait quelque chose de pas correct et sa peine, ça doit être ça, tout le monde est capable de le faire. Mais ça prend toute une maturité, ça prend toute une ressemblance spirituelle pour dire, oui, je sais que cette personne-là m'a fait du tort, mais c'est mon frère, dans le Seigneur, je l'aime et je le pardonne. J'ai besoin de cette personne-là à mes côtés, parce que sa place est dans la maison. Amen. L'heure avance, mais le message est que Dieu a voulu que je partage avec vous, c'est tout simplement reprendre cette parabole-là qu'on a. Que je suis pas mal convaincu que vous avez déjà entendu des sermons et des prédications à son sujet. Mais Dieu nous invite ce soir à rentrer en nous-mêmes et de voir si nous avons vraiment saisi la portée de cette parabole-là. Il y a bien sûr l'image du de l'aîné qu'il ne faut pas avoir. Et il y a surtout des décisions à ne pas prendre, comme celle du fils cadet. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, si toutefois cela arrive entre frères, mais c'est l'amour qu'il faut manifester. Puisque la Bible dit, c'est par l'amour que vous manifestez les uns pour les autres qu'on va reconnaître qu'on est des disciples, qu'on va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta parole, combien elle nous fait du bien. Merci pour chaque personne ici présente qui a eu l'opportunité, Seigneur, d'écouter encore cette parabole. Père, en ce moment, nous te demandons d'agir dans nos cœurs, d'examiner, Seigneur Dieu, nos gestes passés et de voir en quelque sorte comment on a ressemblé par moment soit au fils prodigue, soit à l'aîné. Et combien de fois nous avons manqué d'expérimenter ou d'exprimer, Seigneur Dieu, l'amour fraternel. Alors Père, ce soir, nous te demandons de nous faire grâce, de nous ouvrir les yeux encore plus grands au moyen de ta parole et de nous donner le courage nécessaire et de prendre, Seigneur, la décision de changer nos vies. Combien il est plus facile, Seigneur, de porter un jugement. Mais ta parole nous dit que nous n'avons pas à juger. Nous n'avons pas à juger. Le seul juge, c'est toi. Tu avais l'opportunité de le faire. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne nous as pas jugés. Lorsque nous étions loin de toi, parce que nous avons marché dans le péché, Seigneur, tu as fait don de ta vie. Tu n'as pas manifesté ton jugement, mais tu as manifesté ta miséricorde et ta grâce. Apprends-nous, Seigneur, à faire de même, à agir comme toi envers nos semblables. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, de nous avoir gardés pour venir ici. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, pour le chemin de retour. Garde nos pensées en toi. Et fais-nous cheminer encore ce soir, au moyen de ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Juste vous rappeler les autres rendez-vous. Je sais qu'il y en a quelques rendez-vous en pause ces temps-ci, en raison de la semaine de jeûne et de prière qui s'en viennent. Alors, nous vous invitons tout simplement, si toutefois vous voulez vous remémorer les sermons, soit du dimanche, les bénédictions matinales ou les rencontres des mercredis, c'est encore disponible sur les plateformes Facebook de l'Église. Et nous vous demandons également de prier pour la semaine de jeûne et de prière qui s'en vient à compter du 22 janvier jusqu'au 29 janvier. Et nous vous encourageons également à venir assister à ces séances-là. Donc, vous allez avoir des séances toutes les soirées à compter de 19h à compter du 22 janvier. Donc, venez en grand nombre pour la semaine de jeûne et de prière. Que le Seigneur vous bénisse.